VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal politique en RDC. L'ONU table toujours sur la tenue d'ici la fin 2017 de l'élection présidentielle en RDC. À preuve lors d'une réunion mardi dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et incluant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les participants ont salué l'engagement exprimé par les autorités congolaises à respecter la Constitution, selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre. Les partis en présence ont aussi souligné la nécessité de mesures de confiance supplémentaires pour créer des conditions propices à la poursuite et à la réussite du processus électoral. La réunion au siège de l'ONU s'est tenue sans le président congolais Joseph Kabila, qui inaugurait le même mardi un forum pour la paix au Kasaï en RDC. Ce forum de 2 jours sur la paix au Kasaï s'achève aujourd'hui, inauguré hier par le président Kabila. Son objectif est de restaurer la paix dans cette région en proie aux violences qui ont suivi l'assassinat du chef traditionnel Kamuina Nsapu l'an dernier. Lors de son intervention mardi, le président Kabila a exigé que justice soit faite au Kasaï, dénonçant ceux qui ont fait sciemment le choix de la désinformation de ce conflit qui a fait 3000 morts en un an, dont 2 experts de l'ONU en mars. Mais Christophe Lutundu, la députée de l'opposition, regrette la non-invitation à ce forum de personnalités, ayant selon lui un discours contraire à celui du pouvoir.
Réconciliation au Kasaï, on ne nous a jamais dit, nous n'avons jamais entendu, en tout cas moi pas, ni lu quelque part, qu'il y avait de conflits intertribaux, interclaniques ou intercommunautaires au Kasaï. Moi, je suis de là. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait un conflit entre Tetela, Luba, Lulua, Songetu. Rien. Rien, absolument rien. On nous a dit au départ qu'en fait, c'est un chef Kamuina Nsapu qui n'a pas voulu adhérer à la mouvance de Kabila. C'est normal parce que chef coutumier, la constitution dit que chef coutumier ne fait pas de la politique. C'est ce qu'on nous a dit. Et on n'a jamais démenti ça. On nous a montré que le ministre de l'Intérieur est allé réconcilier là-bas, tout ça. D'où vient le concept réconciliation entre les communautés du Kasaï? Bien au contraire, c'est le pouvoir, c'est Joseph Kabila qui doit se réconcilier avec les Kasaïens qui ont été meurtris, qui ont été forcés à l'exil, qui ont vu leur bien être détruit, les chefs coutumiers tués.
Christophe Lutundula, au micro de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahman Dia. En RCA, rebondissement dans l'affaire de la tentative présumée de coup d'État attribuée au président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoa. Les avocats du leader parlementaire annoncent la poursuite en justice d'un proche du président Faustin, Archange Touadéra. Le point avec Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
En juillet dernier, Didacien Kossimati, un proche du président Faustin Archange Touadéra, avait accusé le président de l'Assemblée nationale de vouloir renverser les institutions de la République. Abdoulkarim Mekassoa avait pris très au sérieux cette affaire à l'issue d'un tête-à-tête avec le chef de l'État qui a décliné toute responsabilité dans cette accusation. Il a promis de saisir la justice et c'est chose faite. Sa défense, un collectif de 7 avocats, relance le dossier. Maître Albert Panda, membre du collectif.
Les membres du collectif des avocats ont adressé une plainte avec constitution de partie civile auprès de monsieur le doyen des juges d'instruction contre monsieur Kossimati Didacien et ses complices pour injure, diffamation, outrage, dénonciation calomnieuse, incitation à la haine, à la violence et à la révolte.
Didacien Kossimati est à la tête du Rassemblement des jeunes de la majorité présidentielle, un mouvement de soutien au président Faustin Archange Touadéra. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Violence au Burundi, la commission d'enquête sur le Burundi a présenté hier à Genève un rapport de plus de 200 pages contesté par le gouvernement burundais. De l'avis de certains experts, ce rapport pourrait être utile à la CPI, la Cour pénale internationale, si jamais des poursuites étaient engagées contre ce pays. Au micro d'Ekiabadou, les explications de François Hampson, l'un des membres de la commission d'enquête.
La Cour pénale internationale a entamé une procédure l'année dernière et le procureur pourrait demander à la Cour pénale d'ouvrir une enquête. La Cour aurait la juridiction pour voir s'il y a une base sur laquelle on peut avoir des procédures pénales au niveau international.
Vous êtes optimiste par rapport à ça?
Ça dépend de la décision de la Cour, parce que c'est à la Cour de décider. On nous a envoyé le petit rapport et le document non, a conference room paper. Peut-être là-dessus, ils vont demander au commissaire des droits de l'homme femmes pour avoir accès aux bases de données, mais ça dépend du consentement des témoins. Dans ce cas, peut-être, le grand rapport pourrait être d'assistance pour le procureur, mais ça dépend d'eux.
François Hampson, un membre de la commission d'enquête sur le Burundi, joint à Genève.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, une troisième mission conjointe gouvernement HCR au commissariat de l'ONU pour les réfugiés a séjourné au courant de la semaine à Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. Objectif, réévaluer le nombre des réfugiés installés dans cette zone pour une éventuelle assistance. Les détails avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Ils sont plus de 2800 personnes à être placées dans les familles d'accueil des quatre localités de la région, notamment Kelendin, Moulkou, Bongor et Pont-Carol. Ces personnes sont de nationalité camerounaise et nigériane fuyant les exactions de Boko Haram de 2015 et de centrafricains se mettant à l'abri suite à la guerre entre les Seleka et Antibalaka de 2014. Olivier Jean-Marc Ouyan, administrateur associé en charge de la gestion des données du SR, parle de l'avantage de cette opération.
Ces données biométriques à nous permettront de toujours faire des vérifications au niveau mondial et nous assurer que dans notre base de données, un réfugié n'est pas enregistré deux fois. Et une fois que cette étape est terminée, nous passons à la documentation de pouvoir faire valoir ses droits parce qu'à ce moment, on lui attribue la carte d'identité de réfugié qui est reconnue par l'État du Tchad et aussi l'attestation de réfugié qui comporte les photos de tous les membres du ménage. Et aussi, ça permet au HCR de pouvoir planifier, savoir combien de personnes on a et pouvoir aussi leur venir en aide.
Quelques réfugiés ont de la peine à retenir les larmes quand ils se mettent à expliquer les moments les plus difficiles qu'ils ont vécu dans leur pays respectif.
Je suis le délégué des réfugiés centrafricains. Je me suis séparé avec ma famille pour les retrouver ici. Je suis né à Bossangwa, ça c'est dans le village même de Bozizé. Ils ont opté pour éliminer tout ce qui est musulman, même leur propre cousin. Moi j'ai perdu mon beau-frère. Je vous dis que mon frère, j'ai souffert. Repartir dès maintenant, moi qui vous parle, vraiment la maison est par terre. Et repartir pour habiter où je suis père de 16 enfants. Ils sont tous avec moi ici.
Je m'appelle Banatela. Je sors de Bama, Maïdougouri. Le problème de Boko Haram qui m'a amené ici, je suis marié. J'ai 5 enfants, j'ai perdu mon grand frère, mon petit frère. J'ai fait 3 ans ici. Dès que la paix revient, on va retourner chez nous là-bas.
Je m'appelle Samira Oumar Hissène. Je suis centrafricain. Nous sommes venus ici au Mayo-Kébi-Est depuis 2015, mais vraiment nous souffrons. Nous ne sommes pas à l'aise ici au Tchad.
Madame le préfet du département de Mayo-Boné, Safia Wambi, représentante du gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, estime qu'à l'issue de cette opération, ces réfugiés doivent espérer une vie meilleure.
Aujourd'hui, je dois vraiment apprécier cette mission qui, depuis plusieurs écrits, a écouté le cri de l'administration et le cri de ceux qui sont en désarroi. Et espérons qu'après cette mission, ceux-là seront pris en charge quelque part par le HCR.
André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
Au Mali, le gouverneur de la région de Kidal est rentré définitivement à son poste ce mardi 19 septembre 2017. Sidi Mohamed Ishra veut mettre en place les infrastructures socio-économiques de base avant le retour des autres symboles de l'État dans cette région sous contrôle des groupes armés de la CMA. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Le 23 août dernier, Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de Kidal, a pu fouler le sol kidalois. Ce mardi 19 septembre 2017, il a fait un retour définitif pour s'attaquer à la mise en place des infrastructures de base.
Nous avons commencé dès mon arrivée par une cérémonie qui va lancer les travaux d'électrification de la ville de Kidal avec l'appui de Barkhane, qui a offert des pièces de rechange à EDM, donc les représentants d'EDM et les techniciens. Ils resteront ici pour une semaine de temps de remettre les différents groupes en marche.
Le gouverneur va poursuivre ses activités au niveau de l'école, la santé et les addictions d'eau potable. Le tout sera facilité par le concours de tous les acteurs de la région.
J'ai discuté avec tous les acteurs et on a trouvé un terrain d'entente. Et je pense que c'est la seule voie qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est de travailler avec les acteurs locaux, c'est-à-dire la CMA, la plateforme, tous les groupes armés, la société civile, etc. Donc de mettre tout le monde dans le processus et d'essayer d'avancer ensemble en attendant l'aboutissement du processus de mise en œuvre de l'accord.
En plus de ce retour définitif du gouverneur Sidi Mohamed Ag Ishrach, les négociations se poursuivent à Bamako pour une parfaite entente entre la CMA et la plateforme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.